Place au journal d'Haïti et des Amériques. Allez, avec un peu d'avance, bonjour et bon réveillon, Adrien Delgrange.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous et merci. De Lima à Port-au-Prince, en passant par Atlanta et Paris, soyez les bienvenus dans votre journal des Amériques.
RFI.
Dans cette édition du 31 décembre 2020, au Pérou, tout d'abord, une manifestation vire au drame. Au moins deux personnes tuées hier lors d'un affrontement entre la police et des travailleurs agricoles. Pour vacciner sa population contre le Covid-19, la Bolivie choisit le vaccin russe, le Sputnik 5. Invité du journal des Amériques, l'universitaire Nicolas Rollin, au sujet du vote des Afro-Américains dans l'État de Géorgie. Un vote probablement décisif la semaine prochaine pour élire deux sénateurs. Et puis Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste, nous attend à Port-au-Prince. Une caricature est à la une de son journal pour le dernier jour de l'année. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Et nous commençons ce journal par l'actualité péruvienne. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Adrien.
Actualité marquée par ces manifestations de travailleurs agricoles qui tournent à l'affrontement avec la police pour la deuxième journée consécutive.
Oui, et deux personnes sont mortes hier mercredi, parmi lesquelles un adolescent de 16 ans, raconte Correo, qui affiche dans son article la photo de l'hélicoptère qui a transporté deux policiers et un civil blessé à l'hôpital. Pourquoi par hélicoptère? Eh bien parce que la route panaméricaine est totalement paralysée par les manifestants, justement au niveau de la ville de Virú. C'est à 500 km environ au nord-ouest de Lima, la capitale. Le mouvement a commencé dans la nuit de mardi à mercredi, rappelle El Comercio, depuis l'approbation de la nouvelle loi agraire par le Congrès.
Alors cette loi fixe notamment un nouveau salaire minimum, Marie. Elle a été votée après 25 jours de débat au Pérou.
Oui, et ce salaire minimum est passé de 11 à 13 dollars par jour environ, ce qui est toujours trop bas selon ces manifestants. Eux exigeaient un salaire journalier de 18 dollars, mais cela nécessitait un nouveau régime de travail qui ne pouvait pas être approuvé par le Congrès. Cela fait déjà plusieurs semaines que ces travailleurs ruraux manifestent. Ils avaient déjà obtenu, on s'en souvient, début décembre, l'abrogation d'une loi agricole qui datait de l'an 2000, et ils fondaient beaucoup d'espoir sur le texte qui allait la remplacer. Mais pour un analyste interrogé par le journal péruvien La Repubblica, ce texte apporte certaines améliorations sans rien changer sur le fond. Toujours pas assez de protection pour les travailleurs agricoles, notamment en cas de licenciement. En tout cas, Andrés Chávez, le maire de la ville de Virú, demande désormais aux autorités de dialoguer de toute urgence avec les manifestants pour éviter d'autres affrontements.
Invocamos a nuestro presidente de la República para que pueda.
Voilà, dans cette vidéo reprise par le site d'El Comercio, on l'entend, il exige du nouveau président de la République péruvienne qu'il se rende sur place pour écouter les revendications de ses travailleurs agricoles. Il demande qu'une table ronde commence dès aujourd'hui, dès ce jeudi. Les syndicats agricoles ont, eux, prévu de poursuivre leur mouvement dès lundi prochain.
Et hier, Marie Normand, nous nous sommes longuement intéressés sur cette actualité argentine, en l'occurrence cette légalisation de l'avortement. Marie, au lendemain de cette information, quelques réactions ailleurs en Amérique latine?
Oui, un petit rappel d'abord Adrien, l'avortement n'est légal dans cette région qu'à Cuba, en Uruguay, au Guyana, à Porto Rico et puis dans deux états du Mexique. Alors si cette loi argentine a été saluée dans certains pays, elle a aussi été accueillie par une minute de silence à la Chambre des députés du Paraguay. C'est ce que raconte Clarine aujourd'hui. Le journal argentin note aussi la réaction très vive au Brésil du président Jair Bolsonaro. Il a lancé sur Twitter que désormais les vies des enfants argentins pouvaient être fauchées dans le ventre de leur mère avec le consentement de l'État. Tant que cela dépendra de moi et de mon gouvernement, prévient-il, l'avortement, ne sera jamais approuvé sur notre sol. Le Brésil, un pays qui, contrairement à l'Argentine, écrit Folia de Sao Paulo, continue d'ignorer les conséquences causées par les avortements clandestins.
Tout autre sujet, contre le Covid-19, c'est à la une de l'ensemble de la presse bolivienne. Le gouvernement achète 5 200 000 doses de vaccins russes.
Oui, contre le Covid-19, 6000 doses du vaccin Sputnik V seront disponibles dès le mois de janvier, puis 1 700 000 doses arriveront chaque mois entre mars et mai. Mais le journal La Razón explique que des négociations sont toujours en cours avec des entreprises pharmaceutiques en Inde, en Chine ou encore aux États-Unis pour obtenir plus de doses cette année et puis les années prochaines, si nécessaire. Le président Luis Arce s'est exprimé du palais présidentiel où l'accord a été signé avec des représentants russes.
Y estamos orientando cubrir al menos el 80%.
Nous visons à couvrir au moins 80% de notre population et nous réitérons la décision de notre gouvernement national. Les vaccins seront gratuits pour tout le monde.
Alors pourquoi le vaccin russe et pas un autre, Adrien ? Eh bien le président explique qu'il a été choisi en raison de sa disponibilité et de son efficacité à 91%. C'est le troisième pays d'Amérique latine à faire ce choix du vaccin russe. La Bolivie où les cas de coronavirus sont en augmentation constante, écrit aussi La Razón. Mercredi, 1485 nouvelles infections ont été enregistrées.
Marie Normand, merci beaucoup pour cette revue de presse des Amériques. Le vote des Afro-Américains dans l'État de Géorgie, c'est le sujet qui nous intéresse à présent. Invité du Journal des Amériques, Nicolas Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez d'Atlanta, capitale de la Géorgie aux États-Unis. Vous êtes doctorant au Centre d'études nord-américaines de l'EHESS, la Géorgie, État américain, où se déroule le 5 janvier prochain un double scrutin crucial pour le Sénat américain. Le démocrate Joe Biden espère bien ravir les deux sièges de cet État conservateur pour disposer d'une majorité à la Chambre haute du Congrès et faire ainsi passer ses réformes. Un résultat qui peut se jouer sur le vote des Afro-Américains dans cet État, et c'est d'ailleurs l'objet de votre travail. Nicolas Rollin, dans cet État du sud-est des États-Unis, comment expliquez-vous l'influence grandissante du vote des Afro-Américains ?
Bon, on peut l'expliquer de plusieurs manières. D'abord, la population noire dans l'État de Géorgie a augmenté depuis les années 70. Il y avait environ 25% d'Afro-Américains dans les années 70 en Géorgie. On en compte 30% aujourd'hui. Donc c'est une augmentation qui n'est pas négligeable. Et puis, les Afro-Américains soutiennent massivement le Parti démocrate depuis les années 60. Et c'est depuis cette époque-là aussi que le vote des Afro-Américains est protégé par la loi et donc garanti. Et donc, ces deux éléments font que le vote des Afro-Américains est de plus en plus central pour élire des candidats démocrates.
Comment expliquez-vous cette prise de conscience des populations noires qui s'inscrivent en nombre sur les listes électorales de Géorgie notamment ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de prise de conscience. En tout cas, il y a eu tout un travail de terrain par les militants afro-américains depuis le mouvement des droits civiques pour justement inscrire les afro-américains sur les listes électorales. Donc ça consiste d'abord à convaincre ces derniers de s'inscrire sur les listes électorales, de les éduquer également au processus électoral. Et ça, c'est un travail qui a été fait par les groupes militants des droits civiques depuis les années 60 et qui a été fait également, on en a beaucoup parlé pendant l'élection, par Stacey Abrams. Depuis 2014 en Géorgie, elle a beaucoup œuvré pour inscrire les Afro-Américains sur liste électorale grâce à sa fondation The New Georgia Project. Donc on estime qu'elle a inscrit environ 800 000 Afro-Américains sur liste électorale entre 2017 et 2018. Et c'est ça qui lui a presque valu une victoire pour le poste de gouverneur en 2018.
Autre explication que vous avancez dans vos différents travaux, Nicolas Rollin, c'est l'urbanisation de la Géorgie.
Oui, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que dans les années 50, la Géorgie, c'était un État majoritairement rural. Atlanta, c'était une ville moyenne de province. Depuis cette période, il y a eu une métropolisation d'Atlanta, qui est devenue une des plus grandes métropoles du pays. La ville d'Atlanta a absorbé tous les comtés qui étaient ruraux aux alentours de la ville. Alors que dans les années 50, on comptait 1 million d'habitants dans la métropole d'Atlanta, on en compte 6 millions aujourd'hui, donc plus de la moitié des habitants de la Géorgie. Il y en a 10 millions en Géorgie en tout. Donc il pèse énormément d'un point de vue électoral, d'un point de vue démographique. Or, les habitants urbains ont tendance à voter pour le Parti démocrate. Donc c'est aussi ça qui peut expliquer la victoire de Joe Biden.
Rappelez également qu'Atlanta a élu le premier maire noir d'une grande ville du Sud dès 1974.
Tout à fait. Ça a été un signal fort, ça a été une victoire symbolique, puisque ça venait prouver que le Sud ségrégationniste, raciste, avait certainement changé depuis le mouvement des droits civiques. Ça a été une victoire aussi politique importante, puisque Maynard Jackson, qui a été élu en 1974, il a mis en place des politiques de discrimination positive. En tout cas, des quotas, il y avait des contrats municipaux, il y avait une partie des contrats municipaux qui étaient réservés aux entreprises détenues par des Afro-Américains. Et puis, ça a été aussi donc, une victoire symbolique, comme je le disais, et qui a aussi mis en marche une migration vers le sud des États-Unis, et particulièrement vers Atlanta, qui à partir des années 70 a été baptisée la nouvelle Mecque noire pour les Afro-Américains.
Et alors, en quoi le vote des Afro-Américains pourrait-il jouer un rôle important le 5 janvier prochain pour élire les deux sénateurs de cet État ?
Alors je pense que c'est un vote qui est très important pour les démocrates en général, comme je le disais. Je dirais qu'il y a un enjeu un peu supplémentaire ici, notamment avec la candidature de Raphaël Warnock, donc le candidat démocrate qui se présente contre Kelly Loeffler, la candidate sortante. Ce qu'on observe, c'est que les électeurs afro-américains se sont plus déplacés en Géorgie lors d'élections de 2008 et de 2012. Ils représentaient 30% de l'électorat en Géorgie, et ce chiffre est tombé à 27% lors de l'élection qui vient de se dérouler en novembre dernier. Donc, il semblerait que cet électorat afro-américain se déplace davantage pour des candidats noirs. Donc, on verra si ce sera le cas pour Raphaël Warnock, mais ça pourrait être décisif, effectivement, pour que ces candidats démocrates l'emportent.
Nicolas Rollin, merci à vous pour tout cet éclairage. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes doctorant au Centre d'études nord-américaines à l'EHESS. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
RFI, les voix du monde.
Et cette élection des sénateurs en Géorgie, un enjeu tellement important que Donald Trump d'un côté, Joe Biden de l'autre, seront en campagne électorale lundi en Géorgie pour soutenir leur candidat. Et tous les moyens sont bons pour tenter de remporter le scrutin. D'ailleurs, Joe Biden a même fait appel à l'ancien président Barack Obama. Aux États-Unis, correspondant signé Eric De Salve.
Georgia. Le clip débute sur une reprise toute trouvée, Georgia on my mind, par John Legend au piano. Le chanteur accompagne une autre voix célèbre, celle de Barack Obama, dans une publicité politique d'une minute pour appeler la Géorgie à voter démocrate lors de la double sénatoriale cruciale du 5 janvier prochain. Quand il a fallu rejeter la peur, la division et envoyer un message de changement, la Géorgie s'est mobilisée, dit Barack Obama, faisant allusion à la victoire de Joe Biden en Géorgie. Cet État conservateur du Sud n'avait pas voté démocrate depuis 1992. Maintenant, l'Amérique compte encore sur vous, lance Obama. Car après les deux élections sénatoriales organisées le même jour que la présidentielle du 3 novembre, l'écart des voix était trop serré, alors la Géorgie doit à nouveau voter pour choisir ses deux sénateurs. Pour obtenir la majorité au Sénat, les démocrates doivent absolument remporter ces deux sièges. Sur fond d'images de manifestations Black Lives Matter et des ravages du coronavirus, John Legend et Barack Obama, deux des personnalités parmi les plus populaires chez les Afro-Américains, espèrent ainsi mobiliser une fois encore l'électorat noir, l'arme secrète de Joe Biden, qu'il a déjà sauvé de la déroute durant sa campagne présidentielle. Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En ligne de Port-au-Prince, à présent nous sommes avec Franz Duval. Bonjour Franz.
Bonjour Adrien.
Rédacteur en chef du Nouvelliste. Et en ce dernier jour de l'année, de nombreux pays du monde, ce 31 décembre, riment avec petit comité, couvre-feu ou encore distanciation physique. Franz Duval, comment se prépare le réveillon en Haïti ?
Bon, le réveillon se prépare relativement bien. Les Haïtiens se préparent à sortir, se préparent à fêter. Il n'y a pas de restriction particulière pour le nombre de personnes qui peuvent se réunir. D'ailleurs, il y a de très gros concerts qui se tiennent à la capitale et dans les villes de province. Il y aura des fêtes de famille. Il n'y a pas vraiment de restriction, même si les cas de coronavirus augmentent dans la population ces derniers jours.
Alors, Franz, cette année 2020, l'année des peurs, hein, pourrait-on dire, et puis l'année des rendez-vous manqués, c'est à la une de votre journal Le Nouvelliste aujourd'hui. De quel rendez-vous manqué voulez-vous nous parler ?
Traditionnellement, le dernier numéro du Nouvelliste de l'année, c'est une caricature qui essaie de résumer l'année. C'est très simple cette année. Il y a le vaccin qui a été trouvé pour la COVID-19 à travers le monde, le vaccin qui est en train d'être distribué. Et il y a le vaccin qui n'arrive pas encore en Haïti, c'est là ce que la caricature essaie d'expliquer. Mais surtout, la caricature dit que nous avons été épargnés par la COVID, mais on a d'autres problèmes pour lesquels on voudrait des vaccins. on voudrait des vaccins pour le kidnapping qui a beaucoup affecté la population haïtienne pendant cette année. Et contre la vie chère, c'est-à-dire l'inflation, la hausse des prix. On voudrait aussi contre la corruption. En réalité, les peurs, ce sont les peurs de la maladie, les peurs des problèmes qui assaillent les Haïtiens. Mais les rendez-vous manqués, c'est les solutions qui n'ont pas été trouvées. Si le monde a pu en une année trouver un vaccin contre le coronavirus, eh bien, dans le cas d'Haïti, les principaux problèmes sont restés quasiment intacts. On traverse l'année et on va passer en 2021 avec ces mêmes problèmes. Le caricaturiste du Nouvelliste a essayé de traduire tout ça en un seul dessin pour dire que le vaccin est disponible à travers le monde pour la maladie, mais les mots qui rongent la société haïtienne vont rester intacts et vont passer l'année.
Et pour l'instant, France, toujours pas de plan de vaccination en Haïti?
Non, toujours pas de plan de vaccination. Il faut dire qu'on ne parle pas beaucoup du vaccin en Haïti comme solution, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce mois de décembre, les cas avaient tellement diminué qu'on ne parlait quasiment plus de la COVID-19 en Haïti. Mais il faut dire aussi, c'est parce qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, particulièrement en France et dans d'autres pays où il y a beaucoup de réticences. Alors les Haïtiens observent tout ça, ils se disent que pour le moment, laissons faire ceux qui peuvent le faire, on va voir comment cela va se passer. Et dans quelques mois ou dans quelques semaines, quand le gouvernement haïtien aura décidé quel vaccin sera utilisé en Haïti, on va essayer de mettre en place un plan de vaccination. Mais pour le moment, il faut dire qu'on a plutôt la tête à la fête et pas encore au vaccin.
Merci Franz. Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Merci à vous d'être passé par Radio France Internationale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure sur notre antenne. Et d'ici là, nous vous souhaitons le meilleur. À bientôt Franz.
À l'année prochaine.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté aujourd'hui par Sarah Vildeuil. Sarah, en Martinique, la préfecture renforce le couvre-feu pour le réveillon du nouvel an.
Oui, il était initialement prévu de 1h à 6h du matin, heure de Martinique. Mais pour la Saint-Sylvestre, il faudra subvenir d'une attestation de déplacement dès 22h et seuls les motifs impérieux seront autorisés. Pour le ministre des Outre-mer arrivé hier en Martinique, l'île doit maintenir ses efforts. Sébastien Lecornu est au micro de Cyriac Sommier de Martinique, la première.
On a un des taux d'incidence les plus bas de France. Et je pense que ça vient pas du ciel.
Dans ces conditions, on pourrait réveillonner, non?
Dans ces conditions, je pense qu'il faut rester vigilant. Il faut pas détruire en une soirée ou en seulement quelques heures 9 mois d'efforts. J'ai pris la décision, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, de réouvrir les restaurants plus tôt que dans l'Hexagone, vous le savez, il y a maintenant quelques semaines. En clair, d'avancer le déconfinement. Et on a fait cette stratégie territorialisée, territoire par territoire. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont bons, qui sont très encourageants, c'est le moins qu'on puisse dire, en Martinique. C'est pas pour autant que le virus ne circule plus.
Après la Martinique, Sébastien Lecornu sera aujourd'hui en Guadeloupe où le couvre-feu est aussi renforcé. Mais cette visite éclair et quasi surprise ne plaît pas au président de région. Ari Chalus a décliné l'invitation. Pour lui, les choix retenus par le ministre ne sont pas assez près des réalités et des attentes de la population en cette période de crise. C'est aussi ce que pensent les membres du syndicat Uni-Art en Guadeloupe. Agenda chargé ou pas, ils sollicitent un entretien avec le ministre des Outre-mer. Christelle M est la secrétaire générale du syndicat. Elle répond à Christelle Martial de Guadeloupe, la première.
Pour rappel, nous défendons les salariés du spectacle de la Guadeloupe et des dépendances. Nous sommes aujourd'hui, en tant qu'artistes, musiciens et tout salarié lié au monde de la culture, privé de toute activité, de tout revenu depuis 10 mois. Donc il nous semble opportun, effectivement, de rencontrer Monsieur le ministre des Outre-mer afin, effectivement, de débattre de notre situation d'extrême précarité actuelle liée au Covid-19, entre autres. C'était déjà le cas bien avant, et afin d'avancer sur notre dossier et surtout de trouver une solution, puisque là on est en train de s'embourber et ça ne va pas aller en s'améliorant.
Et le ministre des Outre-mer doit terminer sa visite demain à Saint-Barthélemy. Même si la nuit de la Saint-Sylvestre est un peu différente aujourd'hui, partons en Guyane découvrir le menu du restaurant Le Bananier à Cayenne. Le chef s'appelle Christian Turiaf et il a adapté son organisation pour l'occasion. Il est au micro Guyane la première de Lindy Nédan.
Pour le 31, on a prévu un menu, je dirais pas light, mais par rapport à la crise sanitaire, puisque à partir de 21h, tout le monde doit être à la maison. Donc on a prévu de faire un pakira, un sauté de pakira à l'ananas, des souris d'agneau à la citronnelle et du magret de canard fumé. Et tout ceci accompagné d'un riz aux petits légumes et bien entendu un haricot rouge qui est le plat local.
Un repas qui donne l'eau à la bouche. J'en profite pour vous souhaiter une bonne journée et un bon réveillon.
Merci beaucoup de nous avoir mis l'eau à la bouche avec ce menu guyanais à Cayenne. Il va être bientôt 10h30 du matin, 14h30 ici à Paris. C'est la fin de ce journal réalisé par Hélène Avril, rédaction en chef Véronique Guémard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles infos.